J'ai 38 ans, je suis arrivé à Toulouse il y a 5 ans. Je travaillais dans la technique, maintenant je travaille dans le social. Et voilà, je fais partie du mouvement Gilets jaunes comme énormément de monde et j'espère de plus en plus de monde. J'ai vu la mobilisation qui s'est faite au tout début, donc le 17 novembre. Et j'ai pas tout de suite été à vouloir m'y impliquer. Donc j'ai un peu regardé ça de loin en me disant, ouh, ça se mobilise, c'est plutôt pas mal. Mais qui se mobilise, pourquoi exactement? Et voilà, donc c'était plusieurs questions puisque personnellement, je ne suis pas pris à la gorge et je pense que les personnes qui se sont mobilisées, surtout au début, c'est vraiment les personnes qui étaient prises à la gorge et qui, 50 euros de plus d'essence par mois, c'est presque impossible à l'imaginer. Donc j'ai commencé à aller dans le mouvement Gilets jaunes quand j'ai tout de suite vu qu'au final, non, bah, en fait, c'est une contestation assez générale et qui n'est pas simplement parce qu'on a touché un portefeuille. Mais aussi parce qu'en fait, très vite, on se rend compte, oui, on touche au portefeuille, mais pourquoi on touche au portefeuille? Pourquoi on a de moins en moins d'argent à la fin du mois? Et c'est finalement tout un système. Et toutes ces questions se sont posées sur les ronds-points, justement. Et c'est là où je me suis dit, non, mais en fait, le mouvement, c'est pas simplement un coup de gueule, peut-être trop ciblé, c'est simplement une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et là, les gens, on en a ras-le-bol. Et moi, c'est quelque chose que je ressens depuis un petit moment, puisque les lois qui passent depuis déjà pas mal de temps me font penser qu'à chaque fois, on sera dans une paupérisation de la population française qui s'accroît. Et donc, la première manif où je me suis impliqué, ce fut la manifestation où, donc du 8 décembre, je crois, où il y avait aussi la marche pour le climat. Un voisin à moi, on s'est vu là-bas et voilà, on s'est reconnus. Et finalement, j'ai vu que beaucoup de personnes étaient là, autant pour la marche pour le climat que pour les gilets jaunes, et que finalement, on avait tous les mêmes objectifs au final. Donc, fin du monde, fin du mois, le même combat, en gros, c'est ce qui se disait. Et assez naturellement, et je pense que par rapport à toutes les personnes qui avaient vraiment sur place, je crois que tout le monde se sent gilet jaune. Maintenant, moi, ce que je dirais, c'est qu'en fait, je pense sincèrement que une majorité de la population ne peut être que gilet jaune. Donc, le week-end d'après, ce qui a déclenché le fait que finalement je vienne à toutes les manifestations, c'est mon voisin qui m'a relancé. Est-ce que tu y vas le week-end prochain? Et j'ai dit, ben oui. Donc, je me suis retrouvé à y aller deux samedis de suite, puis trois. Puis j'ai été à quasiment toutes les manifestations. Pendant les manifestations, je tiens à dire hein, quand même que voilà, l'ambiance est vraiment bonne. Les gens discutent. Il y a une mixité que je n'avais jamais vue par rapport à toutes les autres manifestations que j'avais pu faire auparavant pour la loi El Khomri, par exemple. Et les discussions sont beaucoup plus larges et finalement on voit que les points de base d'intérêt et d'inquiétude des personnes sont les mêmes. Donc finalement je me suis impliqué dans toutes les manifestations, à part une où bien sûr on rejoint la famille pendant Noël, où de loin je vois que tout le monde est en grande partie mobilisé, alors pourtant c'est les fêtes de Noël et qu'on pourrait se dire que à ce moment-là tout le monde retourne un petit peu dans sa vie. Et pourtant, les gens sont quand même mobilisés. C'est là où on pourrait se dire que les médias pourraient beaucoup plus véhiculer le fait que c'est assez unique que les gens soient autant mobilisés au lieu de simplement dire que bah, y a un peu moins de monde de mobilisés. Donc, par rapport aux réponses politiques, il y a eu une ou deux prises de parole de la part du président qui ont fait un flop puisqu'il n'a pas du tout compris de quoi on parlait puisqu'il est revenu sur l'importance de la transition écologique, alors que sur les ronds-points, on a tous bien compris que c'est important la transition écologique, mais que c'est pas en taxant la fin de la chaîne qu'on va résoudre ce problème et qu'il faut attaquer de tous bords. Et à partir du moment où on attaque de tous bords, peut-être que là, la population peut se dire, oui, je fais un effort, mais de directement taxer la population sans taxer, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais des cargos ou autres sur le kérosène, c'est pas légitime. Donc, une mobilisation forte, même en période de Noël. La réponse politique d'Emmanuel Macron après coup, pour les propositions qu'il a faites, par rapport à l'augmentation, du pouvoir d'achat, est pour moi, ben, quelque chose qui était, ultra minime. Donc, en gros, personne ne s'est fait avoir par ces déclarations et les personnes continuent à manifester. Et ça, je trouve ça beau. Parce que les gens se rendent compte que les médias, ne donnent pas toujours les vraies informations ou les informations qui sont données sont souvent détournées. Donc, de retour début 2019, donc rebelote, manifestation, et là on voit qu'on est de plus en plus. Et j'apprends qu'il y a déjà eu des AG, des assemblées générales qui ont été organisées par les Gilets jaunes. Et je me décide, toujours avec mon voisin, d'aller à une AG et voir ce qui se passe. Et là, on comprend très vite que le mouvement a envie, pas simplement, de créer, des représentants ou de se structurer, d'une manière qu'on pourrait l'entendre, que l'État désirerait. C'est que non, les personnes ont simplement envie d'échanger sur tout ce qu'ils sont en train de vouloir mettre en place. Et en gros, on commence à avoir des petites assemblées populaires qui se créent. Donc cette assemblée générale, pour moi, traduisait le fait qu'on commence à discuter ensemble et à vouloir organiser nos démarches et nos actions. Donc à l'assemblée générale, j'ai appris qu'il y avait plusieurs commissions qui avaient déjà été mises en place. Donc il y a la commission politique et revendication, il y a la commission communication et il y a la commission action. Je dois certainement en oublier une ou deux. Très intéressé par savoir en quoi consistaient ces commissions et comment on s'organisait, surtout qu'une personne commençait à présenter des outils pour pouvoir plus facilement s'écouter et participer. Donc, j'ai été à une première commission action où voilà, les actions qui sont décidées ensemble sont super. Il y a des actions très très locales pour essayer d'impliquer les personnes autour de chez soi, de sensibiliser, des petites actions où oui, on a envie de jouer sur changer les signalétiques ou les publicités et faire voir que les gilets jaunes, eux aussi, ont des choses à dire. Et après, des actions qui sont des actions importantes, à mon avis, qui sont des actions de blocage. Et des actions de blocage pour bloquer pas simplement les personnes et les embêter, mais des blocages qui se traduisent par des blocages de l'économie. Et en gros, c'est là où je me suis dit, eh bien, je vais peut-être commencer à moi aussi faire part de ce mouvement. De ce mouvement, pas simplement en manifestation, mais aussi ben, pendant ces actions, parce que au final, c'est la devanture qui est une belle devanture qui est les manifestations, où là, les médias ne peuvent pas dire qu'il n'y a personne ou qu'on est très peu ou que cela s'essouffle. Ils essayent de jouer sur la violence, ils essayent de jouer sur le fait qu'il y ait des extrêmes, des casseurs. Ils vont faire voir beaucoup d'images donc sur la violence qu'il y a pu avoir envers les policiers. Par contre, bon, c'est là où on se rend compte qu'il n'y a aucune image ou quasiment pas, très peu d'images sur bah, les violences policières, hein, le fait qu'au final la violence est vraiment forte de la part des policiers et que toute personne qui va en manifestation tombe des nues, tombe de haut devant cette violence, puisque quand on n'est pas habitué à ça, de voir qu'on est 4000, 5000 à un endroit où la manifestation n'est pas finie, on attend simplement de pouvoir repartir. Où là, les CRS décident de gazer une place entière alors qu'il n'y a aucun projectile, rien du tout. On le ressent vraiment comme une violence. Donc, bien sûr, c'est la police, les CRS directement qui nous agressent. Mais c'est bien en fait l'État qui ne veut pas écouter ce que les gilets jaunes ont envie de faire ressortir comme information, qui est que pour moi, ce n'est pas simplement une, deux, trois revendications. C'est un soulèvement. Le peuple se soulève contre un système, mais se soulève contre tout un système. C'est-à-dire, pour moi, tout le système du capitalisme qui fait qu'on en arrive petit à petit à avoir une paupérisation de la population, et aussi ben, un système qui n'est pas du tout représentant de ce que le peuple voudrait. avec cette démocratie représentative qui est la Ve République, mais qui est toutes les autres républiques auparavant. Donc il y a une prise de conscience de toutes les personnes par rapport en fait à mais quel poids on a au final dans ce système, et on se rend vite compte qu'on n'en a pas. Et que pourtant, depuis tellement longtemps, on a l'impression de vivre en démocratie. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et ça paraît clair pour tous ceux qui finalement commencent à discuter dans ce mouvement. Voilà encore ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est la plus belle chose que ce mouvement apporte, c'est que tout le monde prend conscience. Et c'est une conscience que j'aimerais, moi, que à 100% des gens en France, et pas que en France, prennent conscience, mais l'État et les médias font très bien leur travail, il faut l'avouer, et leur travail de désinformation et de surtout dire, regardez, on attaque la République, indirectement la démocratie, de leurs mots, mais on voit très bien que même du côté de la police et des CRS, les personnes se rendent bien compte que de servir un État qui n'est plus légitime de toutes les lois qu'il met en place, les rend eux-mêmes illégitimes de devoir faire taire un soulèvement. Et je pense qu'il doit y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui doivent devenir plus ou moins un peu schizophrènes par rapport aux valeurs qu'ils ont prônées et qui sont leurs piliers pour pouvoir intégrer ces services de l'État qui sont indispensables, bien sûr. Mais de se rendre compte que finalement, on est en train de taper sur les personnes qui défendent nos propres droits. Il y a vraiment des remises en question folles qui doivent se passer, et peut-être que beaucoup de policiers se sentent seuls dans ces questionnements. Je sais pas. C'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que je pense sincèrement que les policiers sont seulement le bras armé de l'État, mais que les policiers sont exactement comme tous les autres citoyens. Dans la même précarité, et pour moi, finalement, sont eux aussi gilets jaunes. Donc je vais vous parler d'une action, donc la première action à laquelle j'ai participé, qui a été le blocage du péage nord de Toulouse il y a déjà 2 dimanches. Il y a eu une première mobilisation pendant la semaine qui a précédé ce blocage, où les Gilets jaunes ont fait un appel à tous les syndicats pour savoir si oui ou non ils voulaient rejoindre le mouvement et comment ils se positionnaient. Donc 3 syndicats ont répondu et 300 personnes ont discuté à la Bourse du Travail, et il s'avère que énormément de personnes déjà syndiquées avaient déjà rejoint le mouvement des Gilets jaunes, et que beaucoup de personnes étaient très déçues, alors on va dire des hautes sphères de ces syndicats, et qui l'ont exprimé pendant ce regroupement. Et cependant, donc toutes les personnes responsables de ces syndicats sur Toulouse se sont engagées à venir nous rejoindre, et notamment sur cette action qui s'est déroulée au péage nord de Toulouse. Malheureusement, je pense que le manque de communication ou le peu de temps fait qu'ils n'ont pas pu nous rejoindre, mais plusieurs devaient être certainement là en tant que gilets jaunes tout court. Donc, une action comme celle-ci, comment elle s'organise? Il est discuté tous ensemble que de bloquer le pays par le biais de bloquer l'économie, c'est le seul moyen de vraiment se faire entendre. L'action est définie par un groupe qui, pendant la commission action, se réunit, donc tous ceux qui sont intéressés à essayer d'organiser cette action. Cette action a été organisée. On nous a donné un point de rendez-vous en nous expliquant qu'on allait bloquer les camions, puisque les camions son signification de blocage économique, puisqu'ils alimentent tous les dépôts, les magasins, et donc si les magasins manquent de stock, il y a naturellement un ralentissement de l'économie. On a décidé de bloquer les camions en début de semaine, donc à partir du dimanche 10h, pour ne pas contraindre les camionneurs à ne pas pouvoir rentrer chez soi si jamais ça avait été fait en fin de semaine. Donc dans un souci de ne pas pénaliser plus que déjà l'implication qu'on va leur demander un peu obligatoire. En tout cas, donc ça a été décidé qu'à 10h, on bloquait un, deux ou trois points stratégiques, mais que cela serait décidé au moment où on saurait combien de personnes on est à se réunir sur un point de rendez-vous. Au point de rendez-vous, on observe qu'on est 250 voire 300 personnes. Là, il y a une décision qui est prise majoritairement pour dire, allez, on bloque un seul point. Donc, on est parti sur le péage où ceux qui avaient organisé l'action avaient déjà préparé des pneus et des palettes pour pouvoir mettre en place ce blocage. Donc, arrivé sur place, voilà, on récupère le matériel, on investit les lieux. On bloque les premiers camions en leur expliquant bien que voilà, ça a été mis dans les réseaux sociaux aussi, qu'un blocage économique allait être fait et que les camions allaient être bloqués à partir de 10h. Toute la barricade est mise en place et on laisse passer les voitures puisque ce n'est pas le but de l'action, de bloquer les véhicules. Donc, comment se passe la soirée? Donc, on part et on ne sait pas puisque c'est indéterminé, puisque c'est décidé en commission action que le blocage ne s'arrête pas tant qu'il y a du relais, tant qu'on tient le péage. Donc, on part au minimum pour une nuit. Donc, on anticipe, on amène du café, de quoi manger. Certains pensent amener de la musique, voire même j'ai vu un ballon. Tout le monde amène des choses en se disant que ça peut peut-être durer très longtemps et que le mot d'ordre est déjà donné, de toute façon, qu'il y ait un relais si le point de blocage est maintenu. Donc on arrive sur place, les premiers camions sont bloqués et tout de suite il y a une organisation qui se fait, c'est de maîtriser le rangement des camions. Les camions doivent se garer, être parqués et tout ça ne se fait pas du tout n'importe comment. Donc heureusement qu'il y a des gens qui ont déjà fait des blocages et qui finalement nous expliquent tout, comment ça marche, tous les risques qu'il peut y avoir puisqu'on est sur une autoroute et que on est des piétons sur une route. Donc comment faire avec tout ce qu'on a pour être le plus visible possible quand on voit les camions arriver, comment les diriger et les mettre les uns derrière les autres, leur expliquer à chaque fois, leur proposer du café, parler en anglais, en espagnol, en français. Donc c'est toute une organisation qui a un travail à plein temps. En gros, on pourrait croire au début que on va se retrouver, pouvoir encore discuter, que c'est un point d'action où on peut aussi discuter. Bien sûr, on discute, mais en fait, on est vraiment dans l'action puisque il faut pas négliger tous les risques qu'il peut y avoir compte tenu que voilà, on ne sait jamais comment peut réagir un camionneur. Le camionneur qui se sent piégé a peut-être envie de pousser à vouloir passer le barrage par le biais du passage des voitures. C'est là où voilà, faut savoir être prêt, mais en même temps être assez ferme, puisque le but, c'est quand même que tous les camions soient bloqués et qu'il n'y ait pas, sous prétexte qu'une personne a un petit peu fait le forcing, que les autres se sentent, bah voilà, moi je joue le jeu et je vais être coincé pendant combien d'heures, alors que lui a à peine un peu poussé et il est passé. Donc voilà, on essaye de faire les choses le plus juste possible. Comment réagissent les camionneurs? Ça, c'est assez hallucinant. Ils réagissent en grande, grande majorité très bien. Beaucoup de camionneurs ont déjà été bloqués à plusieurs reprises, donc ils savent, ils comprennent, et c'est surtout qu'à l'origine, ils étaient pour le mouvement. Les syndicats ont obtenu des choses par rapport aux camionneurs, donc maintenant, ils n'ont plus le préavis de grève qui peuvent faire la grève. Avec la loi Sarkozy qui peut en plus jouer sur leur permis de conduire si jamais ils bloquent des routes avec leur camion alors qu'il n'y a pas de préavis de grève, fait que peut-être beaucoup de camionneurs sont frileux. Là, je me prononce, je ne sais pas trop, mais en tout cas, les camionneurs sont à 95%, 100% avec nous, avec les gilets jaunes. Plusieurs camionneurs qui, eux, ben voilà. Ils sont eux-mêmes bloqués, ils sont pour les gilets jaunes, mais pas quand on bloque. Quand on les bloque, ont envie de gueuler. Et il y en a beaucoup qui sont quand même exprimés. Donc quand je dis beaucoup, c'est 5. 5 sur, je ne sais pas, il y a dû avoir peut-être 600 camions bloqués. Donc 5 camionneurs qui sont énervés, qui nous disent que voilà, ils comprennent pas pourquoi ils sont bloqués, que ça sert à rien de nous bloquer. Et il s'avère que après s'être énervé, avoir été furax, au final, on commence à discuter et ça se fait tellement naturellement. Et c'est là qu'il nous propose, non, le mieux ce serait de bloquer tel et tel dépôt, ce serait de bloquer. Et finalement, il commence à réfléchir avec nous à comment au mieux bloquer l'économie pour que le mouvement soit fort. Et avec toute leur connaissance et la façon dont ils savent comment se passe la distribution, notamment des denrées alimentaires. Camionneur après son force de proposition. Et ça, je trouve ça beau. Donc, j'ai vraiment apprécié tous ces moments. Ça veut dire que après même 4 heures, 5 heures, 6 heures de blocage, les camionneurs, pour certains, dorment, anticipent le fait qu'ils vont être débloqués et pouvoir repartir. D'autres sont dehors avec nous et tout le monde discute. Les plus virulents, soi-disant, au final, se mettent à jouer un petit peu au foot avec ceux qui ont ramené un ballon. En gros, ce que je veux dire, c'est que c'est une réaction normale et humaine d'être vexé. Parce que quand on se fait bloquer, on a l'impression qu'on nous bloque nous. Nous, et on le prend directement. Et très vite, on comprend vite que non. C'est un symbole ou quelque chose de beaucoup plus gros qu'on est en train de bloquer. Et à partir de ce moment-là, où on n'en prend plus personnellement, tout le monde adhère. Tous les camionneurs ont adhéré. Quand je dis tous les camionneurs, il y en a un qui était très très virulent, qu'il a fallu par contre calmer parce que j'étais pas là, mais apparemment il aurait sorti un couteau ou je ne sais quoi. Mais même lui, au final, s'est calmé, est rentré dans son camion. Il n'était pas d'accord. Je pense qu'il n'a pas dû être d'accord jusqu'à la fin. J'ai rencontré un camionneur espagnol qui n'était pas d'accord et qui comprenait pas pourquoi. Et après, au contraire, j'ai rencontré une dizaine de camionneurs qui, eux, étaient espagnols aussi et qui ont tout de suite compris et qui nous ont même exposé comment eux sont traités par rapport au contrat qu'ils ont en Espagne, qui sont encore pires, j'ai envie de dire, que les contrats qu'on peut avoir en France. En gros, quand je parle de paupérisation de la population française, c'est pas simplement de la population française, c'est de plus en plus de toute l'Europe et les premiers pays qui sont vraiment, j'ai envie de dire, pris à la gorge avec des lois qui sont ouvertes sur les marchés mondiaux et qui poussent à un libéralisme extrême et tout régi par le capitalisme, se retrouvent avec des choses qui, en France, on ne les a pas encore et on trouverait ça inadmissible, mais ça arrivera. Donc, ce point de détail, je vais vous le dire. Donc, en Espagne, leurs contrats sont signés et ils sont payés à l'heure par rapport à leur contrat, mais en réalité, ils sont payés au kilomètre. Et c'est là où ça devient grave. Donc, ils sont obligés de faire beaucoup d'heures pour être payés et avoir le même salaire qu'il y aurait sur leur contrat pour combler le fait que normalement ils sont payés à l'heure. Donc c'est des choses qui sont, j'ai envie de dire, hallucinantes. Et ces personnes-là qui étaient bloquées perdaient tout parce que avec leur contrat, ils pourront pas réclamer d'avoir leurs heures payées en étant bloqués, puisqu'ils n'ont pas fait de kilomètres. Et même ces gens-là qui finalement allaient encore plus subir que beaucoup d'autres camionneurs bloqués, étaient pour le mouvement. Donc on a compris comment l'action a commencé, a débuté. Il s'avère qu'à 8h, 9h du matin, les camions étaient toujours bloqués. Donc les premiers camions qui sont arrivés à 10h étaient bloqués depuis 11h. Et pourtant, ils étaient toujours solidaires et ils nous posaient juste la question, à votre avis, à quel moment on va être débloqué? Alors, un autre détail que je voudrais préciser. Donc, on laissait passer les véhicules, donc les véhicules, les voitures. Donc, pendant la nuit normale, il y a très peu de voitures. Et arrivé 6h du matin, 6h30, 7h, il y a de plus en plus de voitures, de plus en plus de camions. Le bouchon se fait, les camions remontent jusqu'à. C'était hallucinant jusqu'où le bouchon est remonté. Les sorties et les entrées d'autoroute, de toute façon, étaient déjà fermées. Les voitures qui passaient, bon, bah, passaient à vitesse réduite, puisque voilà, il y a des personnes sur la route, mais passaient. Là, maintenant, c'est mon point de vue donc, que j'ai pu voir. Hein. C'est que parmi toutes les voitures qui sont passées, donc les personnes se sont fait, j'ai envie de dire, donc prises au piège dans un bouchon et voilà. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ils le prennent personnellement pour plusieurs personnes. Et ce qui est normal, c'est ce que je pense, c'est la première réaction qu'on a. Les voitures passaient donc devant tous les camions. Et j'étais un petit peu plus en amont du péage et en fait je faisais un signe à toutes les voitures, un peu un coucou et après un petit point levé pour dire voilà le mouvement il faut qu'il tienne. Et concrètement donc il y a énormément de personnes qui soutiennent le mouvement parce que il y a des personnes, on n'a pas besoin de leur faire un petit signe ou un point levé pour qu'ils aient déjà le point levé et des klaxons pour dire wouhou, continuez, vous assurez même si j'ai perdu une demi-heure, une heure dans les bouchons. Il y a plusieurs personnes qui, bon, bah voilà, elles étaient dans les bouchons, mais elles ont un sourire, mais tellement sympathique qui va dans le sens de oui, je suis avec vous, il n'y a vraiment aucun problème, continuez. Et après, il y a des personnes qui, eux, n'ont pas envie de sourire parce qu'ils se sentent piégés. Et après, il y a des personnes qui, eux, font la tête parce que je pense que c'est des personnes qui ne soutiennent pas le mouvement. Et finalement, ces personnes-là, il y en a un, il y en a quand même beaucoup, mais pas tant que ça. Et ça, c'est un peu mon indicateur à moi. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de personnes qui soutiennent le mouvement, même en moment où on se fait bloquer. Et ça, c'est un bel indicateur et ça m'a vraiment donné beaucoup d'espoir sur le fait que la population comprend que ce mouvement n'est pas un mouvement simplement de quelques rebelles ou je ne sais quoi. Non, c'est un mouvement du peuple et qui est légitime. Concrètement, les personnes, puisque c'est une nuit blanche hein, qu'on est en train de faire, le roulement n'était pas encore arrivé. Quelques personnes étaient arrivées très tôt le matin, donc pour commencer à remplacer les personnes qui étaient déjà parties. Donc beaucoup de personnes sont parties tout au long de la nuit. Parce qu'on ne peut pas tenir une nuit blanche comme ceci. Mais voilà, pour différentes raisons, donc les personnes quittent le lieu, on attend qu'il y ait une relève. Et donc à la fin, à chaque fois qu'on prend des décisions, c'est les personnes qui sont sur place qui essayent de se réunir. Oui, à tout le monde, venez, venez un petit peu, on va prendre une décision. Est-ce qu'on libère? Est-ce qu'on libère pas? Est-ce qu'on libère une partie des camions qui correspondrait à tous les premiers camions qui sont arrivés jusqu'à minuit ou jusqu'à 6h du matin? On attend la relève. Et par contre, la décision a été prise de libérer les camions. Les camionneurs eux-mêmes, bah voilà, discutent avec nous et nous disent, bon, bah, à mon avis, ce serait peut-être bien là maintenant de nous libérer une première vague et de continuer à tenir le péage. Et chose qui a été faite. Donc, les camions ont été libérés à 9h30 du matin, à l'heure où moi je suis parti. Donc voilà comment on libère ou qu'on finalise une action. Et la chance que j'ai, c'est que j'habite pas très loin, même si tout était bloqué. Grâce à Wise, on trouve facilement notre route, et même si on met un petit peu de temps, on arrive à la maison et on dort. Voilà, voilà un petit peu mon expérience et la beauté du mouvement. Alors,
Bah,
comment
les
moi je
problèmes.
vois évoluer le problème? Donc, je tiens à le répéter, c'est ma vision et c'est que la mienne. Et moi, je pense qu'on est une mixité chez les Gilets jaunes, et ce qui est normal, puisque la France est une mixité et que le mouvement Gilets jaunes représente les Français. Donc, là, c'est que mon avis qui. Enfin, mon prisme, ma vision, et je me dis que le mouvement. Et toujours ancré, ça on peut pas le nier. Il y a toujours autant de monde, voire à certains endroits encore plus de monde qu'avant, qui rejoignent les manifs. Dans les actions, je vois que beaucoup de personnes sont donc dans les commissions, hein, que ce soit communication, politique et revendications, actions ou autres. Les personnes sont extrêmement impliquées. Propose des choses qui sont adhérées par ou pas mal de gens adhèrent et se mettent en place. Pour moi, comment je le vois, c'est que les actions vont continuer. Elles vont être de plus en plus réfléchies pour pouvoir engendrer le plus de déstabilisation, j'ai envie de dire, du pays. En gros, provoquer l'État et donc toucher au portefeuille. Donc, c'est vraiment les blocages économiques qui pour moi vont être visés. Et comment je le vois, c'est vraiment les relations qu'on a de plus en plus avec toutes les organisations qui existent déjà. Bon, je parle autant des lycéens, des étudiants, des syndicats, mais qui en tout cas, qui est une mobilisation qui prenne tellement d'ampleur que là, on puisse voir de plus en plus de grèves et qui là posera vraiment un problème. Par rapport au blocage économique. Et si une grève générale devait arriver, eh bien là, je pense qu'il pourrait y avoir un retournement de situation qui fait que l'État ne pourra plus, lui, tout seul, décider oui ou non, on fait ci, on fait ça, grand débat ou je ne sais pas quoi. Et que là, il y aura automatiquement toutes ces assemblées qui auront leur mot à dire. Et qui pourront proposer des choses qui, pour notre futur, n'ont peut-être jamais été imaginées, mais qui sont peut-être les choses à mettre en place les plus lucides et les plus concrètes qui auraient dû être mises en place depuis même après la Révolution française. Si on peut s'imaginer que le mouvement prend une ampleur qui est légitime, et que le rapport de force, je ne parle pas de casse, je parle rapport de force tout simplement, que l'État ne soit plus légitime de pouvoir continuer à mener sa politique, et que le mouvement arrive à dégager les personnes qui sont en place dans cet État qui est une oligarchie, hein, faut pas parler d'autre chose, hein, la démocratie représentative n'est qu'une oligarchie au final. Là, les idées qui ont été discutées sur tous les ronds-points, qui sont discutées encore en ce moment, qui seront encore discutées, toutes ces choses qui sortent du peuple, ces idées par rapport à une égalité sociale, par rapport à une égalité fiscale et par rapport à plus de démocratie, fait qu'il y a des choses qui, soi-disant au début, paraissent ridicules, qui vont ressortir, mais comme toute avancée et grandes avancées, au début, on pense que c'est ridicule, donc il n'y a pas besoin d'en parler. Puis on se dit, oula, mince, de plus en plus de gens en parlent, donc on va dire que c'est dangereux. Donc tout le monde pense que c'est dangereux. Et au final, si ça passe quand même, alors qu'on a essayé de véhiculer le fait que c'est dangereux, après ça paraît une évidence. Mais oui, on aurait dû le faire depuis le début. Et je pense qu'il y a déjà des prises de conscience, notamment ne serait-ce par un petit peu plus de démocratie, qui serait le RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne en toute matière, mais qui n'est pas une vraie démocratie en soi, puisqu'on serait toujours dans un pouvoir d'oligarque d'une démocratie représentative. Donc, déjà, cette notion de RIC, en toute matière, hein, je précise bien en toute matière, hein, c'est-à-dire abrogatif, législatif, constituant et révocateur. Si les personnes aujourd'hui commencent à en parler, déjà, par rapport à cette idée, on est sorti du ridicule. Mais comme on en parle en ce moment, mais non, on va remettre la peine de mort, au secours, on va revenir sur l'avortement. Ouh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont décider, les citoyens? On ne sait pas, des fois, ils sont un peu foufous. Donc là, on est dans la phase dangereux. Et finalement, une fois que le RIC est en place, comme il est en place dans d'autres pays, hein, notamment la Suisse, qui existe depuis déjà, le RIC, eux, ils l'appellent les votations, depuis déjà 1900. Pour eux, c'est une évidence. Ils se doivent de pouvoir proposer des lois et pouvoir tous voter ces lois-là. Et ça, c'est quelque chose, mais plus jamais on pourra leur enlever. C'est une évidence. On doit nous demander, enfin, on doit se permettre de pouvoir initier des revendications ou des choses. Donc, des articles, abroger un article, mettre une nouvelle ligne dans la Constitution. Et ces choses-là se font déjà dans plusieurs pays. Et qui pour eux, c'est une évidence. Et pour moi, ça nous paraîtra une évidence. Mais maintenant, allons plus loin. La démocratie directe, qui là pour l'instant, c'est... Bon, non, c'est ridicule, c'est ridicule. Démocratie directe, ça veut dire quoi? Démocratie directe, ça veut dire pouvoir avoir des assemblées qui se feraient dans chaque district, dans chaque petit groupement de quartier, hein, donc pas plus de 3500 personnes, qui fait qu'on peut avoir... Alors, ils appellent ça une agora, c'est-à-dire une petite assemblée, où là, les personnes décident oui ou non sur des lois, de proposer des lois, de voter pour ces lois. Et tout ça remonte. Et là, on a une démocratie qui fait que toute la législation qui est la base propose à des personnes après qui seront mandatées pour faire le reste, c'est-à-dire l'exécutif et tous les autres pouvoirs, ce qu'on appelait pouvoir. Qui leur dit, vous pouvez mettre en place les lois qui ont été créées sur toutes ces agoras. Donc, au début, ça paraît ridicule, et c'est là où ça me paraît intéressant. Ça veut dire que peut-être que dans quelques mois, ça paraîtra plus si ridicule, et on passera dans la phase dangereuse. Et pour moi, c'est les choses qui peuvent ressortir de ce mouvement, c'est-à-dire une conscience politique, qui est admirable de la part de tant de citoyens. Et c'est pour moi ben, une ouverture de cette conscience civique que tout un chacun on devrait avoir, mais qu'on nous a bien souvent dit ou trop dit, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, votez pour un président chaque année ou pour vos députés, mais après on gère. Pour assister ou aux âgés, ou aux commissions pour pouvoir s'impliquer un peu plus dans ce mouvement. En gros, à un moment, il y avait donc les réseaux sociaux hein, qui avaient donc toutes les informations sur Facebook, sur WhatsApp, sur Telegram, enfin bon. Et souvent pour les actions, au début, c'est ce qui se disait, moi j'étais pas au début, mais c'est ce qui se disait, autant essayer d'être discret pour que la police ne soit pas tout de suite là et fasse avorter n'importe quelle action avant même qu'elle ait eu lieu. Or, la police a toutes les infos toujours, tout le temps, constamment, et ils sont, bon, ils ont été formés pour savoir justement ce qui peut se passer, surtout quand il y a beaucoup de personnes qui se réunissent. Donc, on est parti du principe que finalement, bon bah voilà, comme la police saura toujours tout, autant maintenant véhiculer beaucoup plus facilement toutes les infos, les heures de réunion, où est-ce qu'on se rassemble, s'il y a une action, où est-ce qu'on se rassemble, et peut-être que l'action sera un petit peu plus définie au dernier moment. Mais en tout cas, tout est vraiment facile à trouver sur Facebook, principalement, hein, on trouve toutes les informations.